C'est toujours sympa de découvrir quelque chose de nouveau. La Tribu te propose donc une émission exceptionnelle.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la Tribu, et c'est Anime ta soirée. Et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Olympe et Maëlys. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Oh là là, vous êtes toutes timides. Alors, qui dit Anime ta soirée dit on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber, de quoi on va parler. C'est un peu le principe, on se retrouve en début d'après-midi, on débat, on s'arrache les cheveux, on se mord, on se tape hein, pour se mettre d'accord. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Hein.
Oui, totalement.
Totalement. Et quand ça va bien, on arrive à se mettre d'accord, après toutes ces étapes. Et quand ça va mal, bah, on continue de se disputer. Et puis, un jour ou l'autre, il y en a un qui accepte de capituler. Non, non, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On est tombé d'accord très, très vite sur le sujet du jour. Et nous allons parler, mesdemoiselles, de...
Manga.
De l'animation.
Voilà, de l'animation, de manga un peu aussi. Bah, d'ailleurs, souvent, l'un va avec l'autre. Enfin, on va tout vous expliquer. Donc, au programme, on va vous présenter chacune un animé. C'est ça. Maëlys, tu vas nous présenter aujourd'hui.
Bah, un cartoon du coup et The Owl House.
Ah oui, puisqu'on est sur l'animation, donc voilà. Donc toi, tu es partie sur le cartoon. Toi, Olympe, tu es partie sur...
Je suis partie sur un manga qui s'appelle Ranma en demi.
Voilà, et qui a été après
diffusé en animé.
En animé. Et moi, je suis partie sur un manga, mais moi, je vous parle plus de l'animé parce que j'ai pas lu le manga, j'ai juste vu l'animé. Un peu célèbre aussi, puisque je vais vous parler d'Albator. Voilà, attention, gros programme.
Hein, c'est son crush.
Oh bah voilà, elle dit tout. Au programme également, Maëlys, tu vas nous parler d'un incontournable de l'animation japonaise.
Le studio Ghibli.
Enfin même de l'animation tout court. Hein.
Oui.
Voilà, à qui on doit entre autres...
Est-ce qu'on les... Totoro.
Oh Totoro.
Oui, le château ambulant.
Voilà. Bon, plein de superbes animés. Dessins animés là, on peut dire. Cinéma d'animation, je sais pas.
Ouais, bah tout marche.
Tout marche. Toi, tu vas nous parler, Olympe, de...
De comment passer du manga à l'animé.
Ah oui, bah oui. Là, c'est une grosse question également, hein, puisque effectivement, bon nombre de mangas passent ensuite en animé. Et donc, il doit y avoir un certain travail, j'imagine, pour passer de l'un à l'autre. Et bah, moi, je vais vous ramener un petit peu dans le temps. Puisque je vais vous proposer un petit retour dans les années 80, on va dire.
90.
Avec le début de l'apparition de ces animés à la télévision française. Et du coup, on va parler de vieux animés hein, qui ont marqué peut-être la génération de vos parents. Mm-hmm. Eh oui, eh oui. Et en plus, vous verrez, je vous ai prévu des sons pour, pour ça. Ah ouais, ça... Ça envoie du rêve. Hein. Vous voulez que je vous en mette un dès le départ pour se lancer ?
Ouais.
Ouais, ouais.
S'il veut bien partir. S'il veut bien partir.
Avoir des amis, c'est très...
Ah.
Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en s'endormant. Petit prince des collines, viens lui parler.
Oh, on n'en passe pas trop parce qu'on le repassera sans doute tout à l'heure, hein, mais vous aurez toutes et tous, toutes et tous reconnu.
Candy.
Bah, Candy, de toute façon, elle le dit quand même. Hein,
même voilà. Oui.
Et en même temps, ça nous allait bien. Hein, l'espièglerie, c'est tout nous, ça aussi, non ?
Oui, les potins.
Donc voilà, tout ça, c'est dans un instant, c'est dans la Tribu. Et c'est Maëlys hein, d'ailleurs qui va se lancer avec son cartoon. Hein. Ouais. C'est juste après une nouveauté dans la Tribu, c'est Billie Eilish avec Lost Cause.
Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower. and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy.
Pour Anime ta soirée, on parle d'animation ce soir jusqu'à 21h et on commence avec un cartoon et avec Maëlys. Maëlys, nous t'écoutons.
Du coup, The Owl House ou Luce Houseville en français est un cartoon réalisé par Dana Terrace et produit par Disney. Le premier épisode est sorti l'année dernière et pour l'instant, la série a juste bientôt clôturé sa deuxième saison. The Owl House raconte en gros l'histoire de Luce qui, après s'être fait virer de son collège pour avoir amené un serpent en classe, se retrouve envoyée à un camp de vacances pour devenir plus disciplinée. C'est alors qu'à un moment de désespoir total, un petit hibou arrive pour voler le livre de Luce et l'emmène dans une maison mystérieuse. Luce le suit pour retrouver son livre, mais il se trouve que dans cette maison, il y a un portail qui mène à un autre monde. Un monde où la pluie est bouillante, les sorciers et démons sont seuls résidents, et d'où apparemment les girafes sont venues. La jeune fille rencontre alors Idaline Clawthorne et King. C'est une sorcière rebelle, très badass, on peut se l'avouer. Et son animal de compagnie, slash meilleur ami, slash démon. Enfin bref, King, quoi. Luce décide alors de faire ce que toute personne sensée ferait, à savoir courir le plus loin possible dans Bonesboro, une ville où il y a un marché noir florissant et des démons partout. Elle finit par être si effrayée que Ida doit la sauver et la ramener chez elle. Malgré le fait que ce soit un schéma assez classique de cartoon, avec un personnage principal humain qui se téléporte dans un monde de rêves et trouve une nouvelle famille, avec une figure parentale supportive et un petit personnage comique d'une espèce indéterminée, cette série se démarque vraiment par son lore et ses personnages vraiment bien écrits. Prenons par exemple au vif Ida. Une sorcière stylée, oui, mais pas seulement. Elle est aussi atteinte d'une malédiction qui la force à boire des potions dorées pour ne pas se transformer en bête terrifiante qui ressemble vaguement à un hibou, dont son surnom Owl Lady. En plus de ça, elle est recherchée par l'empereur pour utiliser de la magie sauvage, qui est illégale dans ce monde. L'utilisation de cette magie la rend extrêmement forte, au point où elle est capable de combattre les sorciers les plus puissants de ce monde, qui sont dans les rangs de l'empereur. En parlant des rangs de l'empereur, la sœur d'Ida est à une place très très importante. Lilith est l'opposé total de sa sœur. Elle est le modèle de la perfection et elle fait de son mieux pour respecter les règles et ça a toujours marché pour elle. Lilith cherche sa sœur pour la faire entrer dans l'armée de l'empereur. Et pour qu'Ida soit en sécurité, mais aussi parce que l'empereur a promis de soigner sa malédiction. Quelque chose de notable dans cette série est aussi la représentation LGBTQ+. Bah oui, si c'est une chronique écrite par moi, comment ne pas parler des gars s'il y en a ? Ok, mais pour de vrai, c'est vraiment un énorme pas en avant pour la représentation LGBTQ+.
Surtout chez Disney !
Oui, surtout chez Disney. On en voit dans un cartoon pour enfants et en plus chez Disney. Certes, ce n'est pas le premier cartoon avec une aussi bonne représentation. Il y a aussi, par exemple, Steven Universe ou She-Ra. Mais c'est bien la première fois qu'on voit non pas un, mais deux couples queer, ainsi qu'un personnage non-binaire sur Disney. En plus, c'est des personnages principaux. Je vais pas vous spoiler les couples parce que le drama, c'est intéressant. Mais je peux vous parler de la perfection absolue qu'est Rain Whispers. Ancien N, partenaire d'Ida, qui est absolument adorable et un de mes personnages préférés. Yael est le chef des bardes dans les rangs de l'enfer, et c'est Jinx traître, vu qu'Yael travaille secrètement avec les Bards Against the Throne, aka the Bats. C'est un groupe qu'Yael a formé avec des rebelles, et qui a pour mission de secourir des sorciers qui utilisent la magie sauvage. Enfin, je peux pas vous raconter plus de choses à son sujet, vu qu'Yael apparaît que dans la saison 2, et que ce serait des spoilers massifs pour l'histoire de plusieurs personnages. Mais sachez juste que Rain est littéralement parfaite. Et en plus d'avoir un nom super cool. En plus de ça, il y a beaucoup d'éléments du monde qui sont très intéressants et mystérieux, comme tout bêtement la magie. La magie est divisée en plusieurs catégories et ça s'appelle des covens. Il y a 9 covens principaux. Le covent des potions, des plantes, des illusions, des oracles, des constructions, des abominations, des bardes de la santé et des animaux. Et quand un sorcier en joint un, Yael ne peut plus faire d'autres types de magie. Parce que ça... Enfin...
Ça va à l'encontre. Enfin,
oui, voilà.
C'est l'un ou l'autre, quoi. Tu choisis.
Il y a cependant un covent qui échappe à cette règle, et c'est le covent de l'empereur. Les sorciers et sorcières de ce covent ont le droit de garder tout leur pouvoir pour mieux servir l'empereur, du coup.
Moi, c'est celui que je prendrais. Je veux tous mes pouvoirs, moi.
C'est D'accord. Le covent de Lilith aussi.
Bah oui, bah normal. Oui.
Elle est intelligente aussi.
Bah, comme moi, quoi. On se retrouve. Modestie.
Et encore, il y a beaucoup plus de détails de l'or, et même au niveau de la magie, comme par exemple le fait qu'on puisse en faire même si on n'est pas une sorcière. Mais ce serait vraiment trop long à raconter.
Ah, je pourrais vous en parler un jour, ça va, de comment je fais de la magie sans être
sûre. C'est de ces anecdotes là qu'on est en train de.
Ouais. Enfin bref, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder toute la série sur Disney+ et découvrir ces personnages absolument adorables, surtout Ida, Lilith et Rain. Si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez même tout regarder avant le final de la saison 2, qui sort ce 14 août.
Ah oui, donc là, on est en plein dans l'actu, quoi.
Ah oui.
Ah oui, et donc c'est sur Disney+. Mm-mm. Ok, très bien. Bah, moi, ça m'a bien donné envie de découvrir, mais j'ai pas Disney+, donc...
Moi non plus.
On verra, peut-être un mois d'essai.
C'est pas tes anecdotes ? C'était pas ta vie ?
Non, mais bon, à un moment, j'ai cru quand même qu'ils étaient inspirés. C'est pour ça que je voudrais bien découvrir, savoir si je dois leur faire un procès pour leur demander des droits.
D'accord. Oui.
Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, oui, je connaissais absolument pas et ça a éveillé ma curiosité. Il faut bien le dire. Alors moi je vais vous parler d'un animé. Alors c'est totalement différent. Toi t'étais sur du cartoon, moi je passe sur de l'animé. Et un animé très célèbre, hein. Là pour le coup je pense que tout le monde a déjà vu des images de cet animé. Quand on m'a demandé ce soir d'en choisir un, mon choix s'est assez rapidement porté sur celui-là. J'ai nommé Albator. Alors l'histoire d'Albator n'est pas si simple à résumer, je dois bien le dire. C'est pourquoi je me permets de vous lire l'introduction du premier épisode d'Albator, qui va situer quand même le contexte des aventures de ce pirate. Lorsque toutes les mères du globe eurent disparu, les hommes... Oui, je fais une voix un peu bizarre. Mais... Lorsque toutes les mères du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était proche. Ils se désespérèrent sans même songer aux richesses que l'espace infini pouvait leur offrir. Il leur aurait suffi de lever les yeux vers le ciel, mais ils en avaient perdu l'habitude. Seule une poignée d'hommes eut le courage d'aller explorer la mer du dessus, qui pouvait encore sauver l'humanité. Ils furent traités de fous et considérés comme des hors-la-loi. Ah ouais, déjà ça en impose, hein, voilà. Ça permet surtout de situer un peu l'histoire. Alors au commencement, Albator, hein, c'est le fils d'un pirate de l'espace légendaire aux côtés duquel il combat depuis qu'il est enfant. Mais quand on commence un peu à suivre ses aventures, alors moi je parle du premier, hein, celui de 78, parce qu'il y a Albator 78, puis Albator 84, puis après, enfin il y a... C'est très compliqué, Albator.
Il y a beaucoup de choses, Albator.
C'est ça. Eh bien, on est en 2977 et l'humanité ne souffre plus de famine et ne manque de rien. Les terriens nagent dans l'opulence. On peut se dire que tant mieux, c'est cool. Mmh. Ils ont envoyé des robots pour exploiter les ressources d'autres planètes et pour ensuite qu'ils les envoient sur Terre. Tout ce qui est récolté est distribué gratuitement à la population, qui est gouvernée par une autorité mondiale qui pourvoit au bonheur de cette population. Dit comme ça, c'est plutôt chouette.
Bah oui.
Les trucs des autres... De voler des trucs aux autres planètes, c'est pas ouf.
Ouais, alors ils exploitent, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, non, c'est pas ouf. Mais tu vois, dit comme ça, on peut se dire, ah bon, mais on va voir que... Ouais, ouais, mais on va voir que tout ne va pas si bien se dérouler, puisque par l'intermédiaire de... J'aime beaucoup le nom. L'abrutisseur mondiovisuel. Alors, j'ai fait des recherches. C'est un peu un mélange entre des tranquillisants et de la télé-réalité. Hein. C'est un truc un peu... voilà. Les seigneurs bloquent les pensées d'un peuple asservi. Toutes les pensées subversives sont empêchées et les gens vivent dans un état de bienheureuse somnolence. Finalement, c'est plutôt triste. Mmh. Mais un jour, une étrange sphère noire est découverte sur la Terre. Les Sylvidres, des femmes guerrières extraterrestres, projettent d'exterminer l'humanité. Et oui, rien que ça. Leurs crimes sont niés par le gouvernement et sont attribués à Albator et son équipage de pirates. Pourtant, Albator est le seul à prendre la menace au sérieux et s'engage à combattre ces Sylvidres et à lutter au péril de sa vie pour tenter de sauver l'humanité. Voilà, déjà, ça vous pose tout de suite un héros. Moi, je vous le dis, hein, c'est un héros, un vrai de vrai. Alors, c'est un personnage qui peut paraître un peu froid au début, mais en fait, il a beaucoup d'autres qualités, puisqu'il est déterminé, il a un vrai code de l'honneur, il est intelligent, idéaliste, courageux, et c'est un capitaine qui est respecté par son équipage et craint par ses ennemis. Du coup, c'est plutôt pas mal, hein, quand on est pirate de l'espace, hein, voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu un archétype de héros, hein, celui qui se bat pour faire respecter ses convictions et pour sauver des causes perdues, mais on aime bien ça aussi, des fois, quand même. Quand même. Albator, vous l'aurez compris, hein, c'est un personnage qui est très populaire. Preuve en est sa longévité, puisqu'il est né sous le crayon de Leiji Matsumoto en 1969. Et oui, plus de 50 ans. L'animé, lui, est arrivé en France, attention, c'est précis, le 7 janvier 1980. Une telle popularité entraîne forcément de nombreuses analyses sur ce personnage particulier. C'est ainsi qu'on nous explique, si ça nous avait un peu échappé enfant... Moi, je dois l'avouer, ça m'avait un peu échappé enfant. Albator, c'est un homme qui lutte face à une montée fulgurante du capitalisme et de la corruption. Oh. Comment ne pas l'apprécier, quelqu'un qui lutte contre la corruption, c'est tout de suite quand même, voilà. Albator est aussi très en avance sur son époque, puisqu'il ne supporte plus la pollution présente sur la Terre, mais aussi l'inefficacité des hommes politiques. La seule solution qu'il a trouvée pour lutter face à la bêtise des hommes est celle de s'échapper dans l'espace et d'ainsi se battre et s'engager contre le système terrien. L'objectif d'Albator et de tout son équipage, hein, l'équipage de l'Arcadia, est de redonner la réelle liberté aux terriens et de restaurer une humanité de haute valeur morale et écologique. Franchement, c'est pas beau, ça ?
Ah, si.
Ouais, restaurer une humanité morale et écologique, waouh.
Va-t-il réussir ?
Ah, ça, c'est autre chose. À noter, hein, que pour faire partie de son équipage, on ne rigole pas, il faut jurer au nom de la liberté. C'est beau, ça.
Qu'est-ce que c'est que la liberté, après tout ?
Eh ben, déjà, le fait de choisir et de pouvoir jurer sur la liberté, enfin, c'est... Non, moi, je trouve ça trop beau. Alors, avec Albator, en plus, on ne nous prenait pas pour des idiots, puisque Albator, dès la saison 1, il nous parle de libre-arbitre. Et dans Albator aussi, on peut citer des philosophes, les philosophes des Lumières, avec un petit, attention, je cite, « Voltaire les avait pourtant mis en garde. » Et ouais, franchement, ça en impose. Je sais pas, vous avez souvent entendu du Voltaire, vous, comme ça, Voltaire cité
non.
Bah non, non, c'est rare, on
alors,
est d'accord.
On nous cite rarement du Voltaire.
Bah, ouais, voilà, il y a peu d'animés, il y a peu d'animés où Voltaire est pris en exemple, je suis désolée. Alors, moi, pourquoi j'ai choisi de vous parler d'Albator, alors qu'il y a tant d'animés que j'ai vus et aimés? Eh bien, sans doute pour ce petit truc en plus, et oui, je dois l'avouer, Olympe me taquine avec depuis le début de l'après-midi. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour le pirate de l'espace. Et oui, à l'époque, je le trouvais très beau et aussi très classe. Il a un vrai charisme, cet Albator. Tout me plaisait chez lui. Ses cheveux mi-longs, la mèche qui lui recouvre le visage, la cicatrice, le bandeau. Et puis ce style très particulier avec, ce qui fait beaucoup de son charme, cette cape. Voilà, le petit côté androgyne d'Albator, tout ça, voilà. Et puis, je suis désolée, mais pirate de l'espace, ça en impose tout de suite. Dire je suis pirate de l'espace ou je suis mariée à un pirate de l'espace, franchement...
Personne n'y croit.
Bah moi si.
Sur le coup, on dit je suis mariée à un pirate de l'espace.
Et puis finalement... d'avoir choisi Albator, ça nous a permis aussi hein, de trouver notre dernière rubrique de l'émission, puisque on finira l'émission tout à l'heure par les crushs de dessin, nos crushs d'animé. Voilà, donc finalement, merci Albator. Eh hey, ouais. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder ou de re-regarder Albator? Est-ce que vous avez déjà vu Albator?
Non, mais juste sa tête, ça me donne pas envie.
Oh, voilà. Et alors toi, Maïlys?
Non plus, mais peut-être que ça me donne un peu envie.
Peut-être un peu envie,
ça
d'accord.
Ça dépend de si c'est long ou pas.
Ah, c'est... je pense qu'il y a moyen d'y passer un peu de temps quand même.
Après, comme toute série, quoi.
Mm. Bah oui. Alors, est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur Ranma & Demi? Allez, soyons fous. Alors, je suis allée chercher pour les gens de mon âge, hein, peut-être que ça vous rappellera quelque chose. Enfin, peut-être un peu plus jeune que moi quand même. Ranma & Demi, moitié soleil. Alors vas-y, nous t'écoutons, nous voulons, nous sommes impatientes de découvrir qui était Ranma & Demi. Qui est d'ailleurs?
Du coup, je vais vous présenter le manga Ranma & Demi. C'est un manga ayant 20 tomes de plus de 300 pages à chaque tome. Et en tout, il a 407 chapitres. C'est devenu ensuite un animé comportant plus de 161 épisodes de 20 minutes chacun. Ce manga, il a été écrit et diffusé en 1989 au Japon. Et dans toutes les autres, dans le monde entier. Ça a été un grand succès dans le monde entier et ça a été diffusé à la télé de 1989 à 1992. Donc le résumé, c'est au cours d'un voyage en Chine, Ranma Saotome et son père tombent dans une source magique. Depuis, ils sont victimes d'une malédiction et se transforment dès qu'ils sont mouillés. Le fils en fille et le père en panda. Ranma habite chez sa fiancée Akane Tendo, mais leur relation est très violente. Fiancé d'enfance de Ranma, vieux pervers, ennemi, bagarre et amour, tout se déroule dans ce manga. Ranma traîne trois autres fiancées importantes. Shampoo, l'Amazone chinoise qui se transforme en chat et qui veut épouser Ranma parce qu'elle l'a vaincue en duel. Ukyo, l'ami d'enfance qui avait été fiancé par Ranma par leurs parents lorsqu'ils avaient 5 ans. Et enfin, Kodachi, la gymnaste douée en herboristerie qui a le coup de foudre soudain pour Ranma. Ranma fille traîne aussi un prétendant, Tatewaki Kuno, un kendoka qui appelle Ranma la fille à la nette. De son côté, Akane a aussi des prétendants, ils sont trois. Tatewaka Kuno, et oui, celui dont on vient de parler. Il ne peut jamais se dessiner entre l'amour d'Akane et celui de la fille à la nette, amour qu'il a créé de toutes pièces. Parmi les prétendants d'Akane, il y a aussi Konsukugi et Ryoga, des amis d'enfance de Ranma devenus ses rivaux. Ranma et Akane sont aussi têtus et fiers l'un que l'autre, ce qui fait que leur histoire d'amour n'est pas de tout repos. Ils se détestent autant qu'ils s'aiment. J'ai connu Ranma & Demi grâce à des amis de mes parents depuis le début de l'année. Je me suis tout de suite accrochée et aujourd'hui je suis rendue au 17e tome, du coup il m'en reste 3. Et j'ai essayé de regarder l'anime mais j'ai pas aimé parce qu'entendre leur véritable voix, c'était pas du tout la même que celle que j'avais dans ma tête, du coup ça me dérangeait.
Et ça, je peux comprendre parce qu'il n'y a rien de pire quand on se fait tout un truc dans sa tête. Et alors, les voix ou les. Des fois, les. Alors, sur les. J'imagine, tu nous en parleras tout à l'heure, mais sur le passage du manga à l'animé, on a moins le côté, des fois, du livre où tu te fais tout ton truc dans la tête en termes d'image. Là, l'image reste assez similaire quand même. Mais du coup, oui, les voix, je peux comprendre que ça gêne un peu. Maëlys, toi, tu connaissais Ranma un demi ?
Non, bah que de nom. Enfin, que pas de nom, mais le concept, oui. Enfin, oui.
D'accord, et ça te tente ?
Un peu.
Un peu. Alors moi, je j'avais squeezé à l'époque, j'avais pas trop accroché. Peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas, mais non, j'en ai trop, il y a trop de choses à regarder, on ne peut pas tout voir. En tout cas, ils ont tous beaucoup de fiancés ou de prétendants. Hein. On note qu'il y a du monde. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, du coup, de Ranma.
En cas de rupture, ça peut être pratique.
D'accord, on voit, Olympe, en cas de rupture, comme ça, tu as un plan B.
C'est ça.
Voire un plan C.
Oui,
c'est et ça. Même un plan D.
Oh, eh ben, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal.
écoute, c'est vrai que vu comme ça, effectivement, merci Olympe de nous éclairer, tu as raison. Bon, allez, on fait une pause dans la tribu et juste après, on va continuer de parler d'animé, mais on va faire un petit retour dans les années 80. Mais ça va bien suivre Ranma 1/2, du coup, ça va être parfait.
C'est ça.
Et ça sera juste après Bruno Mars, Leave the Door Open.
I'm sipping wine, sip, in a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening?
If you smoke,
what you smoke?
I got the haze.
Haze.
And if you're hungry, girl, I got the lace.
Ooh,
baby, don't keep me
waiting.
There's so much love we could be making.
Show
I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling.
retour dans Animta Soirée avec Maïlys et Olympe et nous continuons de parler d'animation. Donc on a parlé de manga, d'animé, d'animation, de cartoon, de plein de choses. Et tout à l'heure quand on préparait l'émission, on a parlé des vieux dessins animés et on s'est dit allez on fait un petit retour du côté des années 80 avec l'arrivée des animés sur les télévisions françaises. Donc eh bien voilà, un retour dans les années 80. Peut-être ce qu'on regardait vos parents à l'époque. Et à l'époque, dur à croire, mais nous n'avions pas Netflix, nous n'avions pas Internet, mais nous avions TF1 et La 5, grands fournisseurs à l'époque.
Le mercredi et le dimanche.
De dessins animés, puisque à l'époque, nous appelions encore ça des dessins animés. Voilà. Voilà. Et donc, on regardait du coup quasiment tous les mêmes dessins animés, parce qu'il n'y avait pas non plus un choix de malade, quoi. Il y avait deux chaînes qui en passaient, donc voilà. Moi, je pense être la bonne personne, enfin, une des bonnes personnes pour vous en parler, car j'en ai regardé beaucoup, il faut le dire. Évidemment, ah ben voilà, on me coupe la parole, bravo. Alors évidemment, j'avais mes préférences, puisque à l'époque, j'avais une grande, grande, grande passion pour, je l'avoue.
Jeanne et Serge, coup de foudre, moi je te vole les vols. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, moi je te vole les vols. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard.
Alors pour vous dire, c'est même le premier 45 tours que j'ai acheté avec mon argent de poche, le générique de Jeanne et Serge. Et ce qui est bien, c'est que comme maintenant, avec le retour en force des vinyles, je n'ai même plus besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un 45 tours. Et ça, c'est beau. Voilà, donc Jeanne et Serge, comme vous l'aurez compris avec ce merveilleux générique, c'est une histoire autour du volleyball. Voilà, on suit les aventures de Jeanne Azuki.
Super timing.
C'est beau, hein. De Jeanne Azuki qui rêve de devenir une championne de volley. Bon, après, le titre, c'est Jeanne et Serge. Mais franchement, le fameux Serge, on ne le voit pas beaucoup. Je dirais même qu'il y a des moments où il disparaît carrément de l'histoire. Et c'est pas trop grave parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est surtout Jeanne et sa persévérance pour arriver à son but. Et c'est vrai qu'elle est folle amoureuse de ce Serge. Et Serge, lui explique quand même que il l'aime bien, mais que le volet, c'est plus important. Donc voilà. Mais Jeanne, on va la suivre longtemps. Et on va voir si elle arrive à atteindre son but, donc devenir championne de volley. Il y a d'autres personnages très sympas, Peggy, Marie, son petit frère, voilà.
Victime.
Un peu victime. Oui,
Non,
Benjamin, j'en confonds, ça c'est peut-être
Son petit frère, c'est celui qui est tient au-dessus de l'immeuble.
Et il est
veut
blond.
Pas aller à la piscine.
Et il est blond.
D'accord, c'est pas le même.
Non, ça, toi tu vois celui de Lucie l'amour et rock'n'roll qui a les cheveux bleus. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Alors, du côté des sportifs, il y avait, et bien évidemment, également. Alors, les filles, il y avait quoi d'autre?
Serge.
Du côté des sportifs? Eh bien non, il y avait aussi Olive et Tom, l'incontournable du football. Alors Olive et Tom, c'est un peu comme Jeanne et Serge. Il y en a quand même un qui tire un peu plus la couverture à lui, c'est-à-dire que on suit quand même beaucoup plus les aventures d'Olivier Hatton, l'attaquant de la désormais célèbre équipe New Team, que celle du gardien Thomas Price. Tom, il est dans le titre, mais on le voit quand même beaucoup moins. Des fois, il peut être absent très longtemps. Voilà. Alors, le gros point commun d'Olivier Tom et Jeanne et Serge, ce sont les trucs de dingue qu'ils sont capables de faire. Par exemple, Jeanne est capable de sauter en extension pendant facilement 3 minutes, voilà, pour arrêter un ballon.
Elle est forte.
Et Olivier, il est capable de courir au moins, je sais pas moi, 700 km sur un match, quoi. Les terrains de football.
C'est ce que je fais moi tous les jours.
Les terrains de football sont d'une longueur implacable et pareil, là il y a des sauts, il y a des trucs de fou. Franchement, ça, c'est une marque de fabrique, voilà. Bon, alors après, dans les dessins animés dans les années 80, il y avait aussi beaucoup, j'ai dit déjà beaucoup, mais il y avait beaucoup de larmes dans les dessins animés que l'on regardait, enfin que je regardais. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais là, il y avait des larmes.
Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant.
Je suis désolée, je peux pas m'empêcher de chanter.
Que le petit prince des collines.
Bon, vous y attachez pas trop, petit prince des collines, vous allez voir, parce que Candy, c'est triste. Alors déjà, ça commence déjà dès le début, puisqu'elle est orpheline. Elle vit donc dans un orphelinat, celui de Madame Pony. Alors là, ça se passe pas si mal, parce que Madame Pony est adorable, et elle y vit avec sa meilleure amie, Annie. Mais un jour, Annie se fait adopter. Et là, Candy, elle est triste, triste, triste. Parce qu'elle perd presque sa sœur, hein. Et du coup, après, elle se fait adopter peu de temps après. Enfin, non, elle se fait pas adopter. Elle se fait embaucher en tant que dame de compagnie. Mais là, elle arrive dans une famille avec deux ados à moitié horribles avec elle. Et Elisa et Daniel, ils vont la malmener, voilà. Heureusement, elle tombe amoureuse d'un certain Anthony. Mais ne vous attachez pas trop, Anthony. Je vous le dis d'avance.
C'est Cendrillon.
Je vais pas spoiler, mais Anthony, faut pas s'y attacher parce qu'il va pas faire long feu. Et c'est pas le seul qui va pas faire long feu.
Il a fait quoi?
Il va mourir. Il y en a d'autres qui vont mourir, hein.
Il va mourir.
Voilà, Lister, tout ça. Enfin, voilà. Et puis, Candy, elle retombera amoureuse d'un autre garçon.
Qui va encore mourir?
Il va pas mourir, mais c'est peut-être pas forcément elle qui va choisir. Alors il l'aime, mais enfin, c'est compliqué. Elle va être enlevée. Elle va être. Non, franchement, Candy, elle a pas une vie facile.
Une vie de collégien tous les jours, c'est comme ça chez nous.
Candy, c'est pas une vie facile. Moi, je vous le dis. Voilà, mais elle garde toujours le moral.
Oula, je sais pas
c'est bien, c'est
elle garde, franchement, Candy, elle garde toujours le sourire et tout. Alors, il y a eu quelques moments de... Voilà, mais franchement, c'est une battante et elle vit avec son petit capucin qui s'appelle Capucin et qui est trop mignon. Mais vraiment, Candy, on a pleuré devant Candy. Mais si on a pleuré devant Candy, je ne vous raconte pas les sauts que nous avons versés devant... Sarah, le pire dessin animé de toute l'humanité, hein. Alors, Sarah, du coup, sa maman est morte. Elle vit avec son père, mais son père doit partir en Inde travailler. Du coup, il l'inscrit dans une pension en Angleterre. Ce que je vous ai pas dit, c'est que son papa est très très riche. Du coup, là, pour le moment, la vie de Sarah est plutôt heureuse. Jusqu'au jour de son anniversaire, où là, le papa avait prévu de faire une grande fête à la pension. Donc, la grande fête commence, et là, on annonce à Sarah que son père est mort. C'est horrible. Alors là, déjà, c'est triste.
Tu as pleuré.
Bah, déjà, Sarah, elle est triste parce que son père est mort. Donc, nous, on est triste pour Sarah. Mmh. Mais là, la directrice de la pension, qui est une femme très, très méchante, hein, sans doute une des plus méchantes de tous les dessins animés que j'ai vus, elle veut bien garder Sarah à la pension, mais si elle travaille, Sarah, du coup, elle la colle dans une espèce de chambre au-dessus des toits. Mmh. Pour vous dire, ses meilleurs amis à Sarah, ça devient les souris dans la chambre.
C'est Cendrillon que tu nous
racontes. Il y a des fois, elle mange même pas son pain pour les donner à ses souris, alors qu'elle a rien à manger, et puis on lui donne pas un petit châle ou tout, elle est dehors à faire le marché, là, c'est horrible, la pauvre. Franchement, franchement, c'est très triste, Sarah. Voilà, on a beaucoup pleuré devant Princesse Sarah. Je vous dis, ils aimaient nous montrer des trucs horribles. Bon, je vais pas tout vous spoiler, mais il y a un peu d'espoir quand même dans Princesse Sarah. Voilà.
Un garçon peut-être.
Non, peut-être. Eh bien écoute, l'espoir ne vient pas forcément d'un garçon. Enfin voilà. Enfin.
Pas dans cet animé.
Alors si, mais il y a pas. Il y a une petite, mais pas vraiment. L'amour est pas le.
Oui, oui.
C'est autre chose. C'est
autre chose. Y a quand même.
Voilà. Dans le genre pas mal aussi, il y avait Rémi sans famille. Il s'appelle Rémi, il est sans famille, il se balade avec tous ses amis, sa famille à lui, c'est celle qu'il a choisie, ça vous dit quelque chose? Alors lui, il dit, je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Et ouais, alors Rémi, là c'est pareil, lui, il a pas de famille, il se fait adopter par un saltimbanque, du coup voilà, mais là c'est pareil, il y a des morts. Hein. Il y a des morts dans Rémi, il y a du froid, il y a des larmes, et ça, vous pouvez vous dire, ah oui, c'était dur. Mais il y en avait plein d'autres, des comme ça. Je vous ne parle pas de Georgie, je vous parle pas de Gwendoline. Non, il y en avait plein d'autres. Ils ont aimé nous faire pleurer à l'époque, voilà. Mais je vous rassure, il y avait des séries plus sympas. Il y avait les séries animalières. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle craque? Eh bien oui, il y avait des trucs comme ça. Animaux, beaucoup de chiens, voilà. Et là où c'est particulier, en fait, c'était des romans qui ont été adaptés en dessin animé, mais avec pour comme personnages principaux des chiens. Alors là, par exemple, hein, c'est Sherlock Holmes, mais il y avait aussi Le Tour du Monde en 80 jours, et il y avait aussi, alors un de mes préférés, je l'adorais, celui-là.
Un pouce, c'est tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pouce, c'est tous pour un, on est comme des frères.
Et voilà, les trois mousquetaires version chien. Franchement, moi, je vous le conseille. Version chien, ouais, ouais. Mais franchement, vous pouvez regarder, c'est très bien. Le tour du monde en 80 jours, c'est pareil. Il y avait un chat, je crois que c'était un lion. Et puis, Sherlock Holmes, c'était des chiens. Et ça passe crème, hein, moi, je vous le dis. Hein, donc, j'ai beaucoup aimé les trois. Moi, je vous les conseille. Franchement, ceux-là n'ont pas vieilli. Ou presque pas vieilli. Puis franchement, pour réviser les grands classiques, quoi de mieux? Alors, autre série, moi je les avais appelées les filles au pouvoir magique, mais en fait ça s'appelait les Magical Girls.
Pas les Phoenix.
Non, je suis beaucoup trop vieille pour ça. Alors en fait, c'est des petites filles, elles se transforment souvent en ados. Et là j'ai nommé Gigi, Amy Magique et Crémie, Merveilleuse Crémie. Alors, je vais vous passer Crémie, Merveilleuse Crémie. Vous pouvez pas échapper à ce générique merveilleux.
Tu es une petite fille qui travaille en famille. Mais son secret d'espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Un éclair et c'est tout. Et Crémie va chanter pour vous.
Attention, c'est le meilleur moment. Ouais, on donnait tout sur les génériques à l'époque. Voilà, alors Crémie, elle, quand elle devient ado, ça devient une super magicienne. Amy, elle devient une super magicienne. Crémie, elle se transforme en chanteuse. Et Gigi, elle vient du pays des rêves, du ciel. Et ouais, ça en impose. Et elle a juste pour mission de redonner à l'humanité tout entière ses rêves et ses espoirs afin que le pays imaginaire revienne un jour sur Terre. Facile, voilà. Donc elles avaient toutes des pouvoirs, elles avaient toutes des baguettes magiques de folie pour se transformer. C'était merveilleux. Tu devrais aimer Amy Magique, elle avait des jolis cheveux comme toi, Maëlys.
Magnifique. Wow.
Alors maintenant, on en arrive à la romance, parce qu'évidemment, il y avait de la romance. Alors même si on va pas se le cacher, hein, de la romance, il y en avait quasiment dans tous les autres. Mais là, c'était ceux où c'était vraiment centré dessus. Alors il y avait le fameux Juliette, je t'aime, ou encore Lucie, l'amour et rock'n'roll. Alors en même temps, dès le titre, on sait quasiment tout ce qui va se passer. Hein. Juliette, je t'aime, c'est l'histoire de Hugo qui vit dans une pension, mais qui souhaite la quitter, car... elle est pas très adaptée avec son travail scolaire, hein, puisque bah ses voisins sont tous un peu loufoques et du coup il a du mal à suivre à l'université. Mais un jour Juliette arrive pour gérer la pension et là Hugo tombe sous le charme, il tombe amoureux et va tout faire pour séduire Juliette, mais ça va évidemment pas être si facile que ça. Et dans Lucie, l'amour et rock'n'roll, eh bien comment vous dire, tout est déjà dit dans le titre. Il y a Lucille, il y a de l'amour. Et il y a du rock'n'roll. Et oui, Lucille va rencontrer Mathias et Tristan, tous deux membres d'un groupe de rock qui commence à avoir du succès. Et là aussi, je peux vous le dire, ça donne envie. Hein.
Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver, Lucille, embrasse-moi.
Et c'est là qu'il y a le petit garçon avec les cheveux bleus et le gros chat Roméo, voilà. Bon, après, hein, il y en avait beaucoup d'autres, mais en fait, il y en a où je vous les ai pas présentés parce que tout le monde les connaît. Il y avait les célèbres Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball ou encore Nicky Larson. Mais là, le succès est encore là et encore au rendez-vous aujourd'hui. Et puis, si je vous parlais de tous les autres, eh bien, on y serait encore demain. Je vais juste faire un point sur un gros coup de cœur de l'époque. Mais là aussi, je pense que vous connaissez, mais on peut pas y échapper. Parce que là, ça a suivi de nombreuses générations, si je vous passe ça.
Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin.
C'est ta vie, c'est ton destin.
Voilà.
Le jour, la nuit,
avec ses deux meilleurs amis, à bord du grand condor,
on recherche les cités d'or.
Attention! Voilà les fans. Et merveilleux, hein, ces dessins animés étaient merveilleux, les cités d'or.
Sont mortes.
voilà. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent frustrés, promis, une prochaine fois, je vous parle de Lamu, Ulysse 31, Cobra, Jace et les conquérants de la lumière, Cat Size, Inspecteur Gadget, Tom Sawyer, les quatre filles du docteur March, Max et compagnie, Georgie, Gwendoline, le collège Foufoufou, Goldorak, dans les Alpes avec Annette. Et oui, nous avons été jusque dans les Alpes avec Annette. Heidi, Astro, le petit robot, ou encore Belle et Sébastien. Il y en avait beaucoup.
L'école des champions.
Ah oui. Eh oui. Voilà. Il y en a qui vous ont donné envie?
Jeanne et Serge, on n'en parle pas assez que Jeanne, c'est une fille horrible.
Non, Jeanne n'est pas si horrible.
Non, regarde.
Elle est pas si horrible.
Regardez les épisodes.
Je les ai tous vus.
En regardant ce qu'elle fait à son petit frère adoptif.
Après, c'est ce qu'on lui apprend. Est-ce que t'as vu son coach? Il est abominable.
Oui, mais ses parents ne sont pas là. Hein.
Et donc, on en parlait aussi hors antenne. Hein. C'était aussi l'époque des génériques en français. Tout était francisé. Et les noms, hein, puisque, bon, vous imaginez bien que Jeanne ne s'appelle pas vraiment Jeanne. Serge ne s'appelle pas vraiment Serge. Alors, même si dans Jeanne et Serge, ils avaient gardé des noms japonais, puisqu'elle s'appelle Jeanne Azuki, et que ça se faisait pas, puisque par exemple, dans Lucie, l'amour et rock'n'roll, ils ont tout transposé. L'histoire se passe même à Paris. c'est vous dire. Mais Olivier Tom, qui maintenant est revenu, hein, et qui s'appelle bien Captain Tsubasa. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça, ce sont aussi des choses qui ont changé. Maintenant, les personnages ne sont plus les noms ne sont pas forcément francisés. Voilà. Eh bien, écoutez, je sais même pas si on va faire une pause. On va enchaîner, hein. On va enchaîner avec Olam, qui nous parle de comment, justement, transposer un manga en animé.
Oui, alors là, ça va être plein d'étapes. Voilà.
Eh ben, nous t'écoutons.
Donc, on va commencer par la production. Donc, l'étape numéro 1, c'est créer le scénario ou le script. Donc, le scénario, déjà, c'est pas un roman, mais c'est bien une histoire mise en image. Tout ça est écrit par le scénariste, mais est vérifié par les réalisateurs et producteurs. Dans le cas d'une série animée, on établit d'abord l'arc narratif avec l'écriture en détail. Ensuite, il y a l'étape 2 qui est le design. C'est à cette étape que l'on voit les principaux éléments graphiques du projet, les personnages, les décors, les véhicules et même les objets. C'est là où les designers ils peuvent le tout proposer. Donc l'étape 3, du coup, c'est avec les designers. C'est de manière générale, en fait, il n'y a qu'un seul designer par production, sauf en cas de projet très ambitieux. Un assistant de production est chargé de superviser le travail de l'équipe de designers et de regrouper leur travail afin que cela donne une image groupée qui sera ensuite donnée à l'équipe de production. Donc l'étape numéro 4, c'est le storyboard. Donc le storyboard, c'est quoi? C'est la première version de tous les plans du film sous forme de petites vignettes placées dans l'ordre chronologique et accompagnées d'explications écrites sur le côté pour comprendre l'histoire. Il arrive qu'un metteur en scène en cadre de long court-métrage, ou de long métrage tout court, s'en occupe également afin d'accélérer les choses. Donc, l'étape 5, c'est le layout et les poses clés. Donc, en partant des vignettes du storyboard, l'animateur clé va prendre en charge le layout, qui est la disposition d'une séquence complète. Il dessine les poses principales du mouvement du ou des personnages, des véhicules, des effets, des objets, etc. Il trace le décor au trait, définit l'éclairage de la scène, décide des mouvements du cadre, indique les échelles d'intervalle et le timing des poses sur la feuille d'exposition. La disposition est transmise au metteur en scène puis au directeur d'animation pour être vérifiée. Les superviseurs y apportent directement leurs corrections sur forme de dessin. Une fois que la phase de vérification est terminée, le plan est apporté aux animateurs, à l'animateur pour l'étape suivante. Et les poses clés, c'est l'animateur qui avait précédemment dessiné la position du plan. Il reçoit son plan corrigé en détail. Il y ajoute des échelles d'intervalle et annote la feuille d'exposition. Donc son plan, il est ensuite retransmis au metteur en scène et au directeur d'animation pour une seconde vérification. L'étape numéro 6, c'est le clean plus les intervalles. Donc c'est à partir du dessin validé. Le dessinateur il doit retracer au propre à la ligne claire et les poses clés d'animation fournies par l'animateur. Les dessins étant souvent très très complexes et détaillés, il y a différentes couleurs qui sont utilisées pour le dessin, pour rendre le dessin plus lisible possible pour faciliter la mise en couleur. Par exemple, les lignes de contour sont tracées en bleu, les reflets en jaune cernés de rouge, etc. Puis, en se référant à une feuille d'exposition, le dessinateur dessine les poses intermédiaires entre le dessin pour créer l'illusion de mouvement. En gros, il fait plein de dessins d'un seul coup. Donc l'étape numéro 7, c'est la mise en couleur de l'animation. L'étape de la mise en couleur consiste à scanner puis à mettre en couleur numériquement, généralement à l'aide du logiciel Retas, qui est le plus utilisé au Japon. Tous les dessins composant le plan d'animation, le travail demande peu de compétences et est très souvent sous-traité à l'étranger. En revanche, la personne chargée de définir les couleurs et de vérifier cette étape est une personne expérimentée qui travaille sur place sous la supervision directe du réalisateur. Donc ensuite, l'étape numéro 8, c'est l'animation 3D. Donc à partir du storyboard, Le designer conçoit et anime les éléments 3D nécessaires à chaque plan. Contrairement à la plupart des productions occidentales, où les différentes étapes sont confiées à autant de personnes spécialisées, au Japon, un seul technicien généraliste prend en charge l'intégralité des plans qui lui sont confiés, de la disposition jusqu'au rendu final. Dans les productions 2D japonaises, la 3D est principalement utilisée pour les véhicules, les robots, les foules, les scènes de danse, ou encore certains plans nécessaires pour des mouvements réalistes et complexes. Le numéro 9, c'est la mise en couleur des décors. Le décor très dessiné au moment de la disposition par l'animateur est mis en couleur par un décorateur, en accord avec les décors de référence créés par le chef décor. Tous les décors, environ 300 par épisode, sont ensuite vérifiés et éventuellement corrigés directement par le chef décor, avant l'envoi au compositing. La plupart des décorateurs travaillent désormais numériquement, mais pour certaines productions, les décors sont encore peints sur papier avec des techniques traditionnelles. L'étape numéro 10, c'est le compositing. Donc, c'est l'étape de compositing qui consiste à rassembler les éléments d'animé de 2D ou de 3D et le décor afin de créer le plan finalisé. C'est également à cette étape que l'on ajoute des divers effets spéciaux, fumée, pluie, flou de caméra, effets de lumière, filtres de couleur, etc.
Donc, en gros, c'est là où on met les personnages dans le décor, quoi.
Non, là, c'est là où on fait toute l'animation derrière.
D'accord, ok.
Et aussi les mouvements de caméra, le pan, le trend in ou out, etc. Plein d'autres choses. Le résultat final de cette étape est un fichier vidéo numérique non compressé. Et ensuite, c'est la post-production. Donc c'est là où on va tout finir. Le numéro 11, c'est le montage. Les différents plans finalisés sont assemblés entre eux. Dans de très rares cas, il arrive que les plans, voire des séquences, soient supprimées à cette étape parce que ça rentre pas. Et le réalisateur supervise toujours de très très près le montage du film ou des épisodes à temps pour la diffusion. Parce qu'au Japon, c'est un climat où les productions tendent souvent à se finir à la dernière minute. Et on réalise des montages provisoires que l'on met à jour régulièrement tout au long du processus de fabrication. Et enfin, c'est le post-production sonore qui se déroule en 5 étapes. La première étape, c'est la musique. Donc, un compositeur crée la bande originale du son de la série. En fonction des projets et des styles musicaux recherchés, les morceaux peuvent être conçus entièrement en digital ou enregistrés par des vrais instruments, voire en orchestre. Ensuite, en deuxième, il y a les effets sonores. Le directeur de son travail avec un bruiteur pour réaliser et synchroniser les bruitages avec l'effet. Les effets peuvent être issus de banques de sons ou créés pour l'occasion. Ensuite, le 3, c'est le doublage. Une équipe de doubleurs enregistre les voix des personnages du film sur la supervision du metteur en scène, du réalisateur et du directeur sonore. Les prises se font avec tous les acteurs ensemble sur le plateau, en temps réel et sans bande rythmographique. Et les dialogues sont ensuite recalés ou réajustés par la suite au besoin. En quatrième, il y a le montage son. Les voix des doubleurs, la musique et les effets sonores sont calés sur l'image. Les volumes sonores des différentes pistes sont ajoutés entre eux pour créer un ensemble harmonieux. Et pour terminer, il y a le montage vidéo. C'est l'étape finale. Calage des génériques, étalonnage et préparation de la cassette et ou des données numériques à envoyer au diffuseur.
Et ben voilà, gros boulot, hein. Il chôme pas, faut le dire.
Non.
Voilà, ça fait beaucoup beaucoup de travail, mais on n'en doutait pas, hein, en même temps.
Ouais.
Alors Maëlys, toi tu vas nous parler d'un autre endroit où ça doit travailler beaucoup, 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 beaucoup. C'est les célèbres Studios Ghibli.
Du coup, le Studio Ghibli a été fondé le 15 juin 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, suite au succès de leur long métrage Nausicaa en 1983. Le premier film du studio a été Le Château dans le Ciel en 1986, et d'ailleurs une des inspirations pour ce film est le troisième Voyage de Gulliver et Jonathan Smith, dans lequel on retrouve Laputa, une île volante. Dans ce film, on suit Chiita et Pazu, une jeune fille et un garçon qui cherchent tous les deux une île volante nommée Laputa. Pour les aider dans cette quête, Chiita a une pierre volante qui lui montre la direction de l'île. Mais ils vont cependant rencontrer à la bande de Dora des pirates qui en ont après la pierre de Shiita. Ils veulent aussi aller à Laputa, du coup. Et dans la lignée de ce film, on peut dire que tous les films du studio ont un univers très onirique, mais bizarrement réaliste à la fois. Cette impression est donnée à la fois par des techniques très simples, mais aussi par le scénario en général. Du coup, un exemple de technique simple, c'est des séquences d'animation de quelques secondes dans lesquelles on voit les personnages faire des trajets qui sont d'habitude coupés des films d'animation, surtout. Par exemple, comme dans Le Voyage de Chihiro, où on voit Chihiro se rendre au travail ou à différents endroits de la ville à pied. Enfin, du coup, on la voit percer par toutes les pièces voilà. Et pour des personnages réalistes, on peut par exemple voir Princesse Mononoke avec des personnages nuancés et loin d'être parfaits. Chacun des personnages a des enjeux importants, comme San, qui doit protéger la forêt de ses dieux, la forêt et ses dieux, ou Dame Eboshi, qui est considérée comme l'antagoniste du film, mais il se trouve qu'elle doit juste protéger les lépreux et les femmes de son village. Princesse Mononoke est d'ailleurs un film superbe, non seulement par son animation, mais son histoire aussi. Du coup, on suit Ashitake, oui, un prince d'une tribu reculée. Il doit se battre pour sauver son village d'une attaque d'un dieu sanglier atteint d'une malédiction qui l'a transformé en démon. Durant l'attaque, le bras de Ashitake se fait contaminer par une malédiction. Il doit alors partir en expédition vers la forêt où le sanglier a été contaminé. En arrivant là-bas, il y trouve une petite ville fortifiée dirigée par Dame Eboshi, qui recueille des femmes et des lépreux, pour se défendre et faire marcher leur commerce d'armes. Il y a besoin de miner des minerais qui se trouvent dans la forêt où les dieux vivent, et les animaux aussi. Les animaux et leurs dieux veulent juste se protéger contre Eboshi et ses femmes. On découvre plus tard que la malédiction qu'Ashitake a contractée a pour origine ce conflit. Du coup. Et les dieux et esprits sont d'ailleurs directement inspirés du folklore japonais et shintoïste. Mais je pense que l'on peut dire ça de tout. Enfin, que l'on peut dire que tous les films de Ghibli traitent de plusieurs sujets très, très habilement. Et même aussi habilement que Princesse Mononoke. Et notamment, il y a des sujets communs entre les films, comme par exemple la guerre ou l'aviation, qui reviennent beaucoup dans les films de Ghibli. Ce studio a produit de nombreuses œuvres d'art et va sans doute continuer. Surtout que même quand l'histoire est basée sur un livre, Miyazaki a toujours su s'en éloigner pour proposer une nouvelle histoire, comme avec le château ambulant par exemple. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront dans le futur.
Et oui, moi aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est toujours des grands moments de bonheur, les films de ce studio.
Ouais.
Eh bien, merci les filles. L'émission touche quasiment à sa fin. On va le faire très très vite, hein, parce que vous vous êtes moqué de moi tout à l'heure avec Albator. On devait faire un petit point sur les crushs dans les dessins animés. Alors, est-ce qu'il y en a eu des crushs dans les animés, les dessins animés, les mangas?
J'avais eu ça, genre.
Alors, Olin.
Regarde dans My Hero Academia.
D'accord. Et c'est qui dans My Hero Academia pour toi?
C'était Shoto.
Shoto. Et c'est le seul? Ou il y en a eu d'autres?
T'étais tellement moqué de moi.
comme toi avec Albator, on n'a pas les mêmes goûts, Olympe, on n'a pas les mêmes goûts.
Il a les yeux verrons.
Ah oui, bah oui, mais on n'a pas les mêmes goûts, que veux-tu, c'est comme ça.
Mais peut-être qu'Albator aussi, on ne sait pas.
Peut-être, et oui, parce qu'il a un œil, il a un œil, il a qu'un œil, Albator.
Lysandre ou Lysandre, genre.
Ah non,
ça, c'est dans un jeu. C'est dans un jeu.
Amour sucré.
C'est ça.
Voilà, on y va, on balance. Alors, c'est les deux seuls.
Ouais.
Ok, Maëlys, toi, tu as eu des crushs d'animé?
Oula, alors, déjà, j'ai commencé quand j'étais petite, j'ai eu les Flora et Ondine.
La tribu.
Ah non, on s'est fait couper la parole. Non, vas-y, fini.
Et Misato dans Evangelion, évidemment. Howl dans Howl's Moving, dans Le Château Ambulant, mais je me souviens plus de son nom en français. Y a qui d'autre qui se passe?
Appelle le beau gosse. On
oui, voilà, avec les cheveux longs, il est swag.
D'accord.
Il y a personne qui me vient. Pearl de Steven Universe. Bah, forcément, Ida, Rain et Lilith dans The Owl House. Et voilà.
Ouais, c'est pas mal déjà.
Oui.
Bon, bah, moi, vous aviez compris, il y avait Albator, mais il y avait aussi Shiryu dans Les Chevaliers du Zodiac. J'aimais beaucoup Shiryu dans Les Chevaliers du Zodiac. Moi, j'ai dû réfléchir parce que c'était loin. Hein. Il y avait Mark Landers dans Olive et Tom. Il y avait Serge, quand même, il m'a plu à un moment dans Jeanne et Serge. Terry dans Candy. Mathias dans Lucie, l'amour et rock'n'roll. Et plus récemment, je dois avouer que j'ai eu un petit coup de cœur sur Kakashi Sensei dans Naruto. Voilà.
Ouais, mais il est un peu trop vieux. Enfin, il est super.
Mais moi aussi, je suis vieille, donc c'est
ouais,
bon.
T'es pas vieille. Mais en tout cas, il est super.
Et il est super. Très beau personnage, oui. Effectivement. Oui. Plein de subtilités, ce personnage. Bon, eh bien, écoutez, merci les filles. C'était super, cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer avec vous. Merci à Oulin. À bientôt.
Bah, à bientôt.
Merci Maïlis, à bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Et puis bah, bonne soirée à vous tous dans la tribu. Et puis...